Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
À tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du soir, donc avec Olivier. Nous sommes le 28 janvier 2016, il est 21h et nous allons partir ensemble pour cette fois-ci une émission consacrée à la coupe. Ou en tout cas cet objet, cet artefact historique mystérieux que l'on appelle le Saint Graal. Alors avant tout, je suis ravi de vous retrouver après une interruption de plus d'un mois. Hein, on ne s'est pas vu en décembre puisque la fin du mois, le calendrier de l'émission faisait que nous étions effectivement un peu tard dans le mois de décembre, donc on n'a pas pu faire d'émission. La précédente, je vous le rappelle, qui est toujours évidemment en podcast, eh bien c'est donc toujours comment dire, celle consacrée à l'Arche d'Alliance. Et là on continue un peu dans nos artefacts historiques, mythiques, en parlant ce soir du Graal. Alors bon, l'Arche d'Alliance, vous vous souvenez, ça concernait la partie de l'Ancien Testament de la Bible. Et là, ce soir, on va s'intéresser à un objet qui va traverser à peu près 2000 ans d'histoire. Un objet qui doit sa notoriété historique, eh bien tout simplement parce que il s'agirait d'une coupe dans laquelle eh bien un certain nombre de personnages qui assistaient à la crucifixion de Jésus, donc au début de l'ère chrétienne, hein, autour des années 30-31 de l'ère chrétienne, sur le Golgotha, hein, eh bien auraient recueilli le sang du Christ, hein, Jésus-Christ, et ensuite cet objet aurait traversé l'histoire et aurait surtout été doté, hein, de comment dire, de pouvoir donnant notamment la vie éternelle, guérissant la maladie. Bref, on va se balader ce soir pendant un peu plus, une petite heure. Pour voir comment cette coupe du Saint Graal se promène dans l'histoire. On va voir il en est question même déjà avant, hein, le Moyen-Âge, hein, puisque c'est surtout dans la littérature médiévale, hein, du Haut Moyen-Âge, hein, dont on va pas mal parler ce soir, qu'on la trouve, hein, mais on la trouve aussi avant, hein, et ça plonge même ses racines, hein, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est assez à la mode, hein, les fameuses évangiles apocryphes, hein, c'est-à-dire ces textes non officiels qui gravitent, hein, autour du Nouveau Testament. Hein. Je vous rappelle, le Nouveau Testament, c'est tout ce qui raconte, si vous voulez, la suite, hein, la suite de la Bible, hein, c'est-à-dire l'arrivée sur terre de Jésus, qui évidemment sera considéré comme le Christ, le Messie rédempteur, hein, et qui est à la source évidemment du christianisme. Ça, c'est pour évidemment le cadre de cette fameuse coupe du Graal. Alors on va voir, les racines de tout cela dans l'Antiquité, on va voir comment cet objet est traité par un certain nombre de chroniqueurs du Moyen-Âge, qui sont souvent des romanciers, qui racontent des histoires mythiques autour du Graal. Puis on va voir que cette histoire du Graal nous amène pratiquement jusqu'à nos jours, parce que il fait partie, un peu comme un certain nombre de choses, d'objets, d'une véritable objectif, d'une quête, pour un certain nombre d'archéologues. Rappelez-vous de ce qu'on avait dit sur l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue. On avait évoqué d'ailleurs le cinéma, on en parlera aussi ce soir. Il y a ce fameux film de Spielberg, rappelez-vous, sur les aventuriers de l'Arche perdue. N'oubliez pas qu'il y a aussi Indiana Jones et la croisade du Graal, on en reparlera aussi, qui lui évoque la fameuse quête du Graal. On aura l'occasion aussi de voir comment tout cela s'est transposé au cinéma, et puis surtout s'est transposé un peu plus qu'au cinéma, s'est transposé aussi, vous le savez tous, le Graal est au centre même, pour une très large partie, du fameux roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, on aura l'occasion d'en parler ce soir aussi, et le film qui en a été tiré, c'est aussi une reprise de ce fameux mythe du Graal. Je dis mythe car ce soir tout est ouvert, cette émission se veut aussi comme une émission ouverte sur un certain nombre de sujets un peu historico-ésotériques, de cette manière-là. Et ce qu'on essaye de voir, c'est de faire une approche la plus, pourrions-nous dire, objective possible, pour qu'ensuite, vous toutes et tous, vous puissiez vous forger une idée sur ce que c'est que cet objet, et mon Dieu, est-ce que un jour on le trouvera, ou qu'est-ce que ça peut être en réalité, au-delà du symbole évidemment qu'il représente, ça on en parlera aussi. Alors après ces petits propos introductifs, on va entrer de plein pied, suivez-moi, sur les chemins Saint Graal et de sa quête. Alors, en premier lieu, il y a trois origines que l'on trouve autour du Saint Graal. Alors, d'une part, il faut savoir on le trouve d'abord au cœur même d'un texte fondamental des chroniques du Moyen-Âge, dont on va avoir l'occasion de parler, qui est la fameuse légende dite des chevaliers de la table ronde. On va le développer tout à l'heure, mais le Graal déjà se retrouve au centre de cette légende, parce que il va être le but, l'objet d'une quête justement des fameux chevaliers du roi Arthur, qui pour sauver le royaume d'Arthur vont se mettre en quatre de par le monde pour retrouver justement cette coupe du Graal. Alors ça c'est effectivement une source assez lointaine, on va y revenir tout à l'heure. Deuxième origine, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'agirait de la coupe de la scène elle-même. C'est-à-dire, vous savez, avant, on revient un peu sur la Bible et sur les derniers moments de Jésus, quand Jésus réunit les apôtres pour le dernier repas, il va dire qu'un d'entre eux les a trahis, c'est la fameuse scène. Ce dernier repas, la cena, ça vient du latin évidemment, cena veut dire repas. Cette coupe, qui symboliquement transforme le vin en sang du Christ, un des sens, du Graal. Et puis enfin, hein, troisième évidemment sens et origine de tout cela, bah, c'est la coupe du crucifié, hein, c'est-à-dire celle, hein, alors là je vous renvoie, hein, sur l'abondante iconographie, hein, j'en ai un peu mis sur la page Facebook, hein, de cette comment dire, de cet objet, hein, où on voit un personnage, bon, un des, non pas un apôtre, hein, mais un des membres du Sanhédrin de Jérusalem, rallié à Jésus, on en reparlera tout à l'heure, qui brandit cette coupe et qui recueille, hein, le sang du Christ. Alors pourquoi, vous me direz, il est crucifié? Ben oui, mais il se trouve que, comment dire, dans le martyre du crucifié, il y a la couronne d'épines, il y a l'éponge remplie de vinaigre, et aussi cette blessure faite par le fameux soldat romain Longinus avec sa lance, hein, pour faire souffrir encore un peu plus Jésus, hein, et bien sûr de cette blessure au flanc, hein, jaillit le fameux sang qui aurait été recueilli dans la coupe. Hein. Voilà, hein, voilà l'origine même. Hein. De cet objet, et on va là détailler tout cela ensemble. Alors, première partie, bah, on va évidemment se pencher sur les fameuses origines. Alors, à l'origine de tout cela, bah, y a évidemment de grands chroniqueurs, de grands écrivains, les premiers vraiment, comment dire, pourrions-nous dire, chroniqueurs, écrivains, historiens, allais-je presque dire, du Moyen-Âge. Et le premier d'entre eux, bah, c'est un personnage très connu, puisqu'il s'appelle Chrétien de Troyes. Hein. Et Chrétien de Troyes, donc, eh bien, dont les dates sont 1130-1190. Hein. Donc nous sommes au XIIe siècle, nous sommes en pleine période des croisades, c'est pas inutile aussi de le rappeler. Hein. Eh bien, donc, qui va parler pour la première fois du Graal, alors bien avant l'histoire des chevaliers de la table ronde. Là, il s'agit du roman qui s'appelle, hein, chronique, hein, pour le terme plus exact médiéval, ce serait plutôt chronique, hein, Perceval ou le conte du Graal, dans les chapitres 8, 15 et 19. Alors, là, effectivement, il évoque la quête d'un chevalier, dont on apprendra bien sûr qu'elle se rattache après, hein, à la fameuse légende des chevaliers de la table ronde, Perceval, hein, Perceval le Gallois, hein, ce Perceval qui sera repris ensuite dans la légende germanique parallèle, dont on parlera tout à l'heure, hein, comme étant Parsifal, hein, c'est la même, évidemment, origine, hein, c'est le même nom. Eh bien, ce fameux Perceval, donc, eh bien, est à la recherche de cette coupe du Graal, et bien sûr, il va lui arriver tout un tas d'aventures, hein, lors de cette quête, hein, car le terme de quête est extrêmement important, puisqu'il s'agit bien sûr ici d'une transposition, hein, d'une quête, c'est-à-dire une recherche spirituelle, hein, en fait, bien sûr, hein, mais formalisée, bien sûr, sous le nom de la recherche de la coupe du Graal, qui doit symboliquement, hein, apporter la richesse, apporter l'opulence et apporter surtout eh bien, des temps renouvelés, hein, heureux, hein, pour le royaume, bien sûr, d'Arthur. Alors, dans cette, toujours dans cette ses origines, hein, donc autour de Chrétien de Troyes, autour du XIIe siècle. Hein, il faut savoir aussi que le Graal est évoqué comme un plat aussi, un plat creux à poisson. Hein. On le retrouve dans la mythologie celtique, hein, autour du terme de Dagda, hein, qui devient ensuite le Graal, puis Cratella, Crassal, Cradalis. Et surtout évoqué dans le roman de Parsifal sous, bien sûr, le fameux service, hein, de la lance, hein, autour du château du roi pêcheur. Alors justement parce que dans la quête de Parsifal, de Perceval, eh bien Perceval finit effectivement par retrouver le Graal qui est conservé dans un château mystérieux. Et alors on va voir justement ensemble ce soir quel peut être ce château mystérieux, et vous verrez que bien sûr cela nous mène pas si loin que ça, dans le sud-ouest, vers les Pyrénées, en France. Alors, il arrive dans ce château et là, bien sûr, il assiste tout à fait médusé à l'utilisation du Graal autour d'une chevalerie tout à fait mythique, médiévale, chargée de défendre, bien sûr, cet objet sacré, hein, parmi les objets sacrés, vous imaginez. Et donc, le service de la lance, c'est-à-dire que la lance est trempée, se trempe dans la coupe, hein, et permet ensuite d'apporter la manne au peuple et surtout de guérir la maladie du fameux roi de ce château mystérieux, du roi pêcheur. Alors, la légende va continuer de se développer, hein, et on va voir peut-être que, bah, justement, dans notre petite affaire de ce soir, c'est peut-être pas forcément une légende. Hein. C'est bien là, justement, l'intérêt un peu de cette série de thèmes que j'ai librement choisi. C'est de voir un peu comment on peut, partir de ces objets évoqués dans la littérature et de voir en quoi, quelle est la part de réalité et la part de légende. Alors, on continue notre chemin et on arrive bien sûr à la deuxième source. Je vous ai évoqué début du XIIe siècle, Chrétien de Troyes. Et bien cette deuxième source, elle est allemande. Elle se situe entre la fin du XIIe et début du XIIIe siècle. C'est celle de Wolfram von Eschenbach. Alors, comme nous sommes en web radio, hein, c'est Wolfram, comme ça se prononce, von F-O-N, hein, V-O-N, pardon, et le nom Eschenbach, E-S-C-H-E-N-B-A-C-H, hein, Eschenbach, dont les dates sont 1160-1220, qui donc, lui, va reprendre l'histoire de Chrétien de Troyes, autour, cette fois-ci, du fameux thème de Parsifal. Alors, vous avez compris, hein, puisque nous sommes ce soir, vous allez le voir, à tisser des liens dans le temps qui seront, je l'espère, les plus intéressants possibles pour vous toutes et tous. Hein. Wolfram von Eschenbach, c'est sur cette légende-là que Richard Wagner, au XIXe siècle, va se baser pour, bien sûr, éditer le livret de son très bel opéra, ultime opéra d'ailleurs de Wagner, qui s'appelle, vous le savez bien, Parsifal, et qui raconte cette histoire de la quête de ce chevalier dont je vous ai parlé à l'instant. Mais l'intérêt de von Eschenbach, c'est que on a un petit peu plus de détails. Alors, les détails sont en fait sur la coupe elle-même. Alors, Eschenbach nous explique qu'il s'agit en fait d'un membre donc du Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, il s'agit en fait de cette assemblée qui représentait l'autorité religieuse de l'État hébreu, hein, qui était, comme vous le savez, au début de l'ère chrétienne sous la domination romaine. Hein, je ne vais pas évidemment re-raconter toute l'histoire de Jésus. Hein, vous pouvez vous pencher sur une Bible, c'est tout à fait évidemment passionnant, hein, que Rome, quand Jésus naît, évidemment en an zéro, domine. Hein, on va pas faire d'histoire romaine ici, mais il faut repasser un peu le cadre, hein, c'est normal. Domine tout le bassin méditerranéen, c'est un immense empire, un empire qui va durer plus de 1000 ans, hein, l'empire romain. Et bien sûr, le Proche-Orient, hein, cette région qu'on connaît aujourd'hui, hein, Israël, la Syrie, etc., l'Asie mineure, tout ça, hein, plus toute l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Libye, etc., tous ces territoires sont sous la domination romaine. Hein. Et donc Rome est, occupe Jérusalem, bien sûr, et donc ce qui forme l'État hébreu et l'Israël d'aujourd'hui, Palestine, bien sûr. Alors, à ce moment-là, eh bien, il y a cette assemblée représentative religieuse, hein, et vous savez bien, quand Jésus est arrêté, eh bien, le procureur romain, qui représente l'autorité, qui s'appelle Ponce Pilate, hein, eh bien, va tout simplement, si je puis dire, s'en laver les mains, c'est le cas de le dire, et remettre Jésus aux autorités eh bien, juives, hein, pour que bah, il décide un peu de son sort, hein, et évidemment que en gros les Romains n'aient pas à endosser entre guillemets par leur faute le martyr, hein, d'un homme dont ils craignent en fait que Jésus soit à défaut d'un prophète. Ça, ça préoccupe pas trop les Romains, c'est plutôt que ce serait un agitateur évidemment qui remettrait en cause l'autorité romaine. Et au sein du Sanhédrin, bah, il y a des membres qui sont acquis à Jésus et qui n'ont pas du tout envie que celui-ci soit crucifié. Il y en a deux au moins, l'un qui s'appelle Joseph d'Arimathie, et un autre qui s'appelle Maître Nicodème. Et ces deux personnages vont jouer un rôle dans cette fameuse histoire du Sanhédrin, si on a cette histoire du Saint Graal. Et pourrions-nous dire, c'est peut-être là où à la fois les origines historiques et les origines mythiques se confondent, hein, pour ensuite faire jaillir toute cette série de légendes dont on parle. Et ce serait donc lui qui, eh bien, aurait donc, en tout cas, proposé son propre tombeau pour que le corps du Christ donc soit donc comment dire déposé après le martyr de la croix. C'est aussi lui, selon certaines sources, et on verra tout à l'heure d'autres choses, qui donc aurait en même temps subtilisé, paraît-il, dit-on, une coupe sacrée, donc dans le temple de Jérusalem, nous dit-on, le temple de Salomon, pour recueillir le sang du Christ, et qu'il aurait ensuite déposé cette coupe dans le tombeau avec le corps de Jésus, qui, comme vous le savez bien sûr, hein, c'est l'histoire même de Pâques, hein, renaîtra donc des morts un peu plus tard. Alors voilà, voilà un peu les détails un peu plus précis, hein, on le voit, que nous avons sur cette fameuse histoire du Graal. Pour l'instant, bon, on était resté sur une histoire d'une coupe, une quête médiévale. Là, avec Von Eschenbach, on est déjà dans beaucoup plus de choses, hein, détaillées. Et puis il y a aussi, eh bien, un certain nombre de, bien sûr, de médiévistes qui se sont intéressés à tout cela, et notamment l'historien Michel Roquebert, hein, donc là je parle évidemment de période plus contemporaine, hein, bien sûr, qui explique en quelque sorte, hein, que toute cette histoire du Graal, en fait, puisqu'il s'agit des chevaliers de la Table Ronde, du roi Arthur, eh bien, aurait été, alors là aussi, c'est encore une piste intéressante, forgée au XIIIe siècle par les Plantagenets, c'est-à-dire cette dynastie anglaise qui était en rivalité, bien sûr, avec avec le royaume de France, hein, ce sera après une des origines, comme on en reparlera plus tard, de la guerre de Cent Ans, un peu plus tard, hein, et notamment en créant cette fameuse abbaye de Glastonbury, hein, qui se trouve en Grande-Bretagne, hein, et tout cela aurait servi en fait à forger une légende, nous explique Michel Roquebert, dont le but, hein, aurait été tout simplement, eh bien, de trouver une légitimité, pourrions-nous dire, mythique, quasi divine, hein, aux Plantagenets, en les faisant descendre directement du mythique roi Arthur. On a là l'opposition, hein, c'est assez intéressant, entre la dynastie des Capétiens, hein, qui veut se faire remonter côté français aux origines de Troie, hein, avec la fameuse légende de Francion, hein, notamment, et puis de l'autre côté, hein, donc cette comment dire légende, hein, entre guillemets, forgée, hein, côté anglais, hein, par les Plantagenets, pour évidemment légitimer, hein, leur dynastie. Donc voilà encore un autre chemin de traverse, hein, concernant notre Graal. Et puis ensuite, eh bien, donc Chrétien III, les détails que l'on vient de voir précis que donne von Eschenbach au siècle suivant. Ensuite, les analyses qu'on a pu faire sur des origines, évidemment, dans l'Antiquité même et dans l'histoire même du martyr de Jésus. Hein, et les théories hein, qu'on vient de voir pour autour de l'abbaye de Glastonbury tenter d'avoir forgé une légende mythique, hein, pourrions-nous dire, des Plantagenets, hein, en les faisant remonter directement au roi Arthur. Alors, je pourrais préciser hein, que, bien sûr, et vous le verrez, je le mettrai peut-être en ligne, il y a une foule d'émissions extrêmement intéressantes sur tout cela, notamment sur eh bien, c'est plein d'historiens anglais et britanniques qui recherchent les origines comment dire du roi Arthur, puisque le roi Arthur officiellement autour de duquel s'organise hein, la fameuse table ronde aurait existé ou n'aurait pas existé. Tout cela est une partie de mystère évidemment tout à fait intéressant et auquel bien sûr se rattache hein, l'histoire du Saint Graal, hein, puisque c'est pour ramener la paix hein, dans le royaume dit du dragon, hein, le royaume d'Arthur, que ces fameux chevaliers de la table ronde vont tous partir vers la quête pour retrouver le Graal, sachant qu'il s'agit de Parsifal qui sera celui qui va y arriver, hein, bien sûr. Alors, nous avons ensuite ce qu'on peut appeler les continuateurs hein, de tout cela, et le XIIIe siècle, avec un chroniqueur, encore une fois, du Moyen-Âge, en voilà encore un troisième, donc Chrétien III, Wolfram von Eschenbach, et à présent Robert de Boron. Robert de Boron, XIIIe siècle. Qui va synthétiser hein, en quelque sorte les sources antérieures dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, hein, les trois sources antérieures, hein, pour nous dire, c'est-à-dire à la fois une forme de tradition historico-mythique liée à la Bible, hein, qu'on a vu, dont on a commencé à voir quelques aspects tout à l'heure, qui donne d'ailleurs un socle, pourrions-nous dire, presque historique. Hein, si on veut, et puis ensuite donc la reprise hein, par ces deux grandes sources du 12e et de l'ensemble du 12e siècle que sont donc Chrétien III et Wolfram von Eschenbach. Alors Robert de Boron lui synthétise hein, autour d'une histoire à nouveau hein, qui est reprise, qui s'appelle l'histoire du Graal, hein, je le cite en dans la langue très ancienne qu'il emploie, hein, donc l'histoire du Graal. Alors, cette histoire du Graal dont il nous parle, nous sommes alors avec Robert de Boron au XIIIe siècle en 1220, eh bien, principalement, il nous parle évidemment d'un calice, hein, donc là, il s'agit vraiment de quelque chose de tout à fait formalisé, hein, un calice qui, donnerait la vie éternelle, hein, voilà justement le mot de la fameuse quête, hein, donnerait la vie éternelle à qui, boit de l'eau, hein, ou voire du sang éventuellement, qui se trouverait dedans. Donc là, nous sommes évidemment en plein symbolisme. On parle hein, du Saint Calice, hein, dans cette histoire-là. Alors, Robert de Boron également aurait utilisé. Alors là, ça nous plonge dans davantage de sources pour l'historien que je suis, qui seraient un peu plus historiques. Qui sont ces fameux textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces fameux évangiles apocryphes, et précisément un texte grec que Robert de Boron aurait utilisé et qui s'appelle l'Évangile selon Nicodème. Alors Nicodème, qui est-ce ? Eh bien, c'est justement ce second personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Second personnage donc qui, au sein de cette assemblée religieuse juive, le Sanhédrin, ou le Sanhédrin, il y a plusieurs prononciations, eh bien fait partie de ces Hébreux de l'époque qui sont acquis aux idées de Jésus et qui, eh bien, ont tout fait pour essayer de l'aider. On a vu Joseph d'Arimathie, le tombeau, et là il s'agit donc de ce texte intéressant qui serait, parce que bien sûr tout cela évidemment est quelque chose qu'il faut vérifier, l'évangile selon Nicodème. Alors dans cet évangile selon Nicodème, on nous explique donc que en effet, et de façon beaucoup plus précise que ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, la coupe en question a été effectivement subtilisée au sein même du Sanhédrin pour recueillir le sang du Christ. Et que c'est Nicodème donc qui aurait confié à Joseph d'Arimathie la précieuse coupe. Je cite en très vieux français du XIIIe siècle le texte de Robert de Boron, « Uns juis les veisselles trouva, chies Simone, c'est l'esprit c'est garda, car Jésus fut dilec menèse, et devant Pilate l'ivraise. » Donc on aura compris que dans ce texte donc apocryphe du IVe siècle, on nous explique en fait qu'il s'agit de Nicodème et de Joseph d'Arimathie qui donc auraient récupéré cette fameuse coupe. Alors la suite de notre histoire, on est quand même à cette époque-là, XIIIe siècle, avec Robert de Boron, en pleine période, il faut aussi le rappeler, c'est quand même important, de la fameuse recherche frénétique des reliques. Ne pas oublier que le XIIIe siècle, c'est aussi la période de Saint Louis. Saint Louis, qui, à défaut d'avoir à cette époque-là retrouvé le Graal, prétendra en tout cas avoir récupéré la fameuse couronne d'épines, ce qui est quand même pas mal non plus en ce qui concerne la crucifixion de Jésus. Le Graal, c'est le sang recueilli miraculeusement dans une coupe mystérieuse. L'évangile de Nicodème nous dit qu'effectivement, il nous précise, quand même au IVe siècle, quelques siècles après les faits, comment ça s'est produit, on va le détailler dans un instant. Et puis Saint-Louis, lui, ça va être la récupération de cette fameuse couronne d'épines, qui existe toujours, qui est conservée dans la cathédrale Notre-Dame à Paris, et son rapatriement vers Paris, et vous le savez, c'est toute l'histoire extraordinaire de la construction de la Sainte-Chapelle. Quelques années à peine, ce chef-d'œuvre du gothique, dont je vous recommande vivement la visite, qui se trouve aujourd'hui dans l'enceinte du Palais de Justice à Paris, dans l'île Saint-Louis. Je vous recommande vivement de vous rendre dans ce merveilleux lieu qu'est la Sainte-Chapelle, qui a été construite pour abriter cette couronne d'épines, évidemment, qui est une relique. Il faut comprendre aussi que dans ce Moyen-Âge, des 11e, 12e siècle, qui est cette période de confrontation majeure entre l'Orient et l'Occident, la volonté de libérer entre guillemets les lieux saints, de pouvoir se rendre dans une certaine ferveur sur les lieux mêmes du martyr de Jésus, etc., à Jérusalem, la possession par tel ou tel monarque de cette époque-là de reliques, que ce soit des morceaux de la croix, que ce soit des clous de la croix, que ce soit la couronne d'épines, voire la fameuse éponge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était chargée de vinaigre pour rafraîchir entre guillemets le martyrisé, tout cela procède évidemment de choix politiques, car ça donne bien sûr hein, un prestige énorme, hein, donc à Louis IX, à Saint-Louis, pour comment dire, avoir le prestige, bien sûr, d'annoncer, hein, la possession d'une relique, hein, bien sûr, cela donne un rôle important à tel ou tel royaume, hein, voire au Saint-Empire lui-même, hein, avec la possession, bien sûr, hein, de reliques, hein, ça donne un prestige évidemment énorme. Et ça, c'est un des objectifs, effectivement, du règne de Saint-Louis, hein, dont peut-être on reparlera un jour dans d'autres émissions. Alors revenons-en à nos affaires, hein, bien sûr, et à Joseph d'Arimathie, à l'évangile de Nicodème. Et donc, on va... effectivement, grâce à ce texte apocryphe du IVe siècle, eh bien, un peu arriver à suivre ce qui est arrivé, ce qui serait arrivé à cette coupe, un peu la suivre, puisqu'en fait, dans toute cette histoire, on est quand même en pleine mystique, si on peut dire, archéologique, en pleine quête archéologique, hein, de savoir, bah oui, alors si le Graal a existé, si on en parle tant, bon, en plus de sa valeur symbolique, pourrions-nous dire, où est-il, hein, est-ce qu'un jour on va retrouver cette fameuse coupe, hein. On détaillera tout à l'heure le nombre incroyable de coupes prétendues comme étant le Graal, hein. Bien sûr, aucune ne l'est, hein, probablement, hein. Mais si on l'avait retrouvée, cette émission n'aurait peut-être tout simplement pas la même saveur, hein. Ça, c'est une évidence. Alors, Joseph d'Arimathie, bah, est capturé parce que, bah, vous savez bien, Jésus, est mort sur la croix, il est enterré, et puis bien sûr, bah, le tombeau est vide, bien sûr, les Romains pensent qu'on a volé son cadavre à des titres d'idolâtrie, et c'est seulement au moment où Jésus serait revenu d'entre les morts, fameux événement de Pâques, hein, que Jésus lui-même aurait remis, hein, le fameux calice, hein, à Joseph d'Arimathie lui-même. Alors plus tard, cette coupe va réapparaître. Alors ça, c'est assez intéressant. Elle va réapparaître 30 ans après les faits, sous le règne d'un empereur romain qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Vespasien. Vespasien, dont les dates sont 69-79, hein, très malade, et qui aurait, je dis bien aurait, parce que là encore une fois, c'est difficile à dire, aurait été guéri, justement, miraculeusement, d'une maladie très grave, la fameuse coupe. Donc cette coupe se serait retrouvée à Rome. Vespasien, pour celles et ceux que cela intéresse, c'est l'empereur romain qui va construire, hein, le Colisée à Rome, hein, cette immense salle à découvert, hein, servant pour les jeux du cirque. Hein. Bien, ce Colisée, donc c'est lui qui l'a largement contribué à sa construction. Donc c'est un empereur qui a laissé un rôle assez important. C'est une période d'ailleurs relativement de paix pour Rome, et donc pour nous, dans ce qui nous intéresse, bah, c'est que la fameuse coupe se serait trouvée là, à ce moment-là. Certaines sources nous parlent effectivement d'un miracle, entre guillemets, qui aurait guéri cet empereur romain. Ensuite, la coupe, se transmettre apparemment pendant le IIe siècle au sein de la famille et des descendants de Joseph d'Arimathie. Et elle serait ensuite, alors là c'est là que s'installe la fameuse légende arthurienne, hein, la coupe au début du Moyen-Âge, dans le Haut Moyen-Âge. Hein, quand je parle du Haut Moyen-Âge, on se situe, mes amis, au 5e, 6e, 8e siècle de notre ère, hein, bien avant l'an 1000. Hein, c'est cette fameuse période de convulsion, hein, marquée par les invasions dites barbares, hein, la création, à la place de l'Empire romain d'Occident, des premiers royaumes, hein, du Moyen-Âge. Et je parle de là de toute l'Europe, puisque la coupe en question, à partir de ce moment-là, serait arrivée en Bretagne, ce que la légende appelle la Bretagne bleue. Vous savez que dans la légende arthurienne, chez Chrétien de Troyes, chez toutes les sources dont je vous ai parlé, il y a la Petite Bretagne. La Petite Bretagne, c'est évidemment la Bretagne celtique, hein, que nous connaissons. Et puis il y a la Bretagne bleue, hein, qui donc était évidemment le royaume en formation d'Angleterre, hein, qui deviendra plus tard la Grande-Bretagne. Et donc alors, cette coupe est décrite comme se trouvant par Robert de Boron dans un lieu mythique que l'on appelle le Vau d'Avaron, qui en fait est l'île d'Avalon. Alors qu'est-ce que c'est que ça, que l'île d'Avalon ? Eh bien, l'île d'Avalon, qui est un lieu mythique, c'est là que le roi Arthur, ce roi évidemment du haut Moyen-Âge, donc qui présidait l'assemblée des chevaliers de la Table Ronde, hein, le roi Arthur, la reine Guenièvre, eh bien, aurait été inhumé dans cette île, à la fin évidemment de la fameuse saga, hein, que représente l'histoire des chevaliers de la Table Ronde. L'île d'Avalon, d'après les différentes recherches des historiens, eh bien l'île d'Avalon, en fait, la mystique et mystérieuse abbaye de Glastonbury, quand même, nous remonte au 8e siècle, hein, quand même, de notre ère. 8e siècle, c'est quand même pas hier, hein, pourrions-nous dire, donc qui se situe en Grande-Bretagne, dans l'ouest du Somerset, hein, et c'est là, effectivement, que autour de la synthèse faite par Robert de Boron, donc 13e siècle, synthèse des textes de Chrétien de Troyes, de Wolfram von Eschenbach, de Xavier de Langlois, etc., naît en fait la fameuse légende des origines mythiques, sacralisées, pourrions dire, par le Graal, de la dynastie donc des Plantagenets. C'est pour ça que, effectivement, de façon mythique ou non, on a pu chercher effectivement, entre guillemets, les restes du roi Arthur à Glastonbury. Vous trouverez facilement sur internet des émissions qui expliquent effectivement que bon, certains historiens ont prétendu avoir retrouvé effectivement les restes du roi Arthur dans les ruines de cette abbaye qui a été en bonne partie détruite et brûlée par le roi Henri VIII, si mes mémoires sont bonnes, là-dessus. À peu près où nous mèneraient les suites de cette fameuse coupe, si toutefois, évidemment, on l'aurait cherchée par là. Alors, quel sens on peut donner à tout cela ? Alors, quel sens on peut donner à tout cela ? Et je regarde quand même sur le site si des questions d'auditeurs venaient à s'y trouver, car nous sommes dans une émission en direct, je vous le rappelle, où on peut répondre effectivement à vos questions. Je n'en vois pas, mais il y a le podcast ensuite et vous pourrez bien sûr interagir sur ce sujet-là, que je trouve pour ma part, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer parce que c'est un sujet passionnant, et vous allez voir, parce qu'on n'a pas encore terminé, avec le Graal, dont il y a encore beaucoup de choses, bien sûr, à dire. Alors, ce Graal, qu'est-ce que c'est finalement, où est-ce qu'on en est, et quel sens, surtout, quel sens pouvons-nous donner à cet objet mystérieux ? Bon, c'est d'abord un objet sacré. C'est un objet considéré, dans toute la période du Moyen-Âge, comme un objet puissant, quasiment magique, qui donne la vie éternelle, qui guérit, qui apporte la félicité. C'est un objet que seul quelqu'un de considéré comme pur peut le posséder. Et là, confère bien sûr toute la quête de Parsifal. C'est un objet aussi considéré comme pouvant éventuellement être annonciateur de la fin des temps. La quête elle-même est évidemment une quête initiatique. Et il symbolise aussi le pouvoir temporel du christianisme, notamment, qui gravite bien sûr autour de la table ronde, et c'est bien sûr le passage aussi du monde païen au monde chrétien, bien sûr, au niveau de la symbolique que cet objet représente. Également, dans le langage courant aujourd'hui, quand on parle du Graal, le Graal de quelque chose, c'est la manne, le Graal, ça représente, quand on dit voilà, on a trouvé le Graal de quelque chose, il s'agit évidemment de la source essentielle qui va mener à tout. Alors, ensuite, il y a plusieurs sens. Et là, on reprend notre chronologie. On s'est arrêté dans le Haut Moyen-Âge, et nous voilà maintenant largement à la fin, quasiment à la période de la Renaissance, avec Rabelais. Et oui, Rabelais, qui, en 1532, parle du fameux sang réal, le sang gréal. Tiens, ça c'est intéressant parce que, bien sûr, vous le savez, c'est ce qui va être repris un peu plus tard dans le fameux roman de Dan Brown dont on va bien sûr parler. Alors en 1532, Rabelais évoque un sang qui guérit, que c'est une coupe du Christ qui guérit, donc on retrouve ça dans les textes de Rabelais de cette époque-là. Également, on nous parle d'une sainte jatte, ou le sang royal de la coupe, qui serait conservé. Alors là, voilà un lieu, encore une fois, c'est intéressant, l'abbaye de Fécamp, ça c'est assez intéressant, la Normandie, parce que bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure qu'en essayant de pister un peu notre Graal, on a vu que les sources, les plus fiables, entre guillemets, nous diraient qu'elles auraient pu se trouver dans le sud-est de l'Angleterre. Également, les croisés en 1101, l'auraient ramené avec eux et l'auraient exposé et conservé à Gênes, ce qu'on appelle le sacro catino. Mais est-ce la bonne coupe? Et puis on en arrive bien sûr au fameux Graal évoqué par la synthèse qu'en a fait Dan Brown dans son roman, qui s'inspire lui-même, comme on le sait, de la fameuse énigme sacrée dont je vous redonne les auteurs, Henry Lincoln, Michael Begant et Richard Ley, qui en fait disent, pour faire simple, car je vois que l'heure tourne, que en fait le Graal lui-même n'est pas une coupe, mais serait évidemment un mystère bien gardé depuis des centaines voire des millénaires, qu'en fait le Graal serait lui-même Marie-Madeleine, qui aurait été l'épouse de Jésus et bien sûr aurait donné une descendance. C'est la fameuse histoire, je vous renvoie à ce que tout le monde connaît bien, au roman de Dan Brown, au film qui a suivi, à l'énigme sacrée bien sûr, comme source première que je vous ai évoquée tout à l'heure, comme étant le fameux féminin sacré. Alors là, évidemment, on est dans tout à fait autre chose, et il s'agit, bien sûr, là, toute une émission n'y suffirait pas consacrer là-dessus, de savoir, alors, effectivement, comment dans l'histoire, on est passé d'une coupe à une histoire apocryphe et totalement parallèle et mystérieuse du récit de la vie de Jésus qui n'aurait pas du tout été en fait celui et qui est écrit dans la Bible, mais autre chose et qui graviterait autour effectivement de cette idée du Graal. C'est un très vaste sujet dont je ne suis que ce soir un modeste évocateur, je ne suis évidemment pas aussi spécialiste que bien des personnes qui se sont et s'intéressent à tout cela. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr, le Graal ensuite va se retrouver diffusé, plus le temps, nous approchons des temps actuels, absolument dans tout un tas de sources diverses, hein, bien sûr. Le roman, alors déjà l'opéra de Wagner, 1882, hein, Parsifal, hein, donc qui prend sa source hein, dans le récit de Wolfram von Eisenbach. Ensuite, on a le cinéma, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure. Bon, alors il y a dans le mode humoristique Monty Python, Sacré Graal, 1975, Perceval le Gallois d'Éric Rohmer, Excalibur, bien sûr, de John Borman, je vous recommande vivement, c'est extrêmement intéressant. Indiana Jones et la dernière croisade, hein, où évidemment le Graal, là, se serait retrouvé, conservé à Petra, hein, en Jordanie. C'est là qu'on le retrouve. Puis bien sûr, bon, bah, le roman Le Da Vinci Code, hein, suivi du film de 2006, hein, qui a suivi le film de Ron Howard, je passe. Et maintenant, pour les 10 minutes qui nous restent à peu près, on va se demander où serait-il ? Où est-ce que serait cette fameuse coupe ? On aura compris qu'à la différence de l'Arche d'Alliance, où il y a vraiment eu des fouilles archéologiques, peut-être des archéologues qui l'auraient retrouvé, hein, on l'a bien évoqué la dernière fois, le Graal, on voit bien, on est dans quelque chose de beaucoup plus difficile à saisir. Mais vous allez voir que tout cela nous emmène donc au cœur même hein, l'histoire du XXe siècle. Alors, rapidement, différentes théories, différents lieux où il aurait pu se trouver. Alors d'une part dans la cathédrale de Valence avec le Saint-Calice, le Sacro-Catignon de Gênes dont j'ai parlé tout à l'heure, le Calice d'Antioche, hein, donc situé évidemment cette fois-ci au Proche-Orient, le Saint-Vase de Troyes qui a été pillé en 1204 à Constantinople, la coupe de Nanteos, situé au Pays de Galles, dans un monastère, alors à nouveau nous revoilà partis vers la Grande-Bretagne, la coupe onyx du Pays de Galles aussi, la coupe dite des Templiers, qui se trouve en Italie, et donc c'est une théorie qui remonte à assez récemment, 1995, une mystérieuse cuvette en or repêchée dans le Chiemsee, c'est-à-dire la région de Munich, en 2001, hein. Et puis aussi la cruche dite des noces de Cana, qui se trouvait dans le trésor de la cathédrale de Saint-Denis, hein, la nécropole des rois de France, et qui, comme vous le savez, cette nécropole a été pillée et anéantie à la Révolution française en 1793, et donc elle aurait mystérieusement disparu. Et puis nous voilà pour la fin, j'ai gardé le meilleur, si je puis dire, pourrions-nous dire, nous voilà emportés maintenant au cœur des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale. En effet, pourquoi ? Parce que un jeune archéologue allemand s'intéresse à tout ça, à la question des cathares, à Montségur. Montségur, c'est ce château où les albigeois au XIIIe siècle s'étaient installés. Donc les fameux cathares, c'était ce fameux château de Montségur où les cathares avaient installé leur dernier retranchement de la fameuse croisade hein, contre les cathares, cette fameuse croisade du XIIIe siècle. Je ne reviens pas plus en détail, on en a hélas plus le temps. Et Montségur, dans un certain nombre de recherches menées par un archéologue allemand du nom de Otto Rahn, dont les dates sont 1904-1939, qui donc s'intéressait déjà à la question des cathares, de proche en proche aussi s'est demandé si Montségur ne voulait pas dire mont du salut, hein, mont salva, c'est-à-dire le fameux mont du salut évoqué par Wolfram von Eschenbach dans la fameuse saga du Graal dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors c'est un archéologue sans le sou, mais il se trouve qu'à partir de 1933 s'installe le totalitarisme nazi en Allemagne, et que une partie de ce totalitarisme nazi cherche une assise, historique, voire mythique, lui aussi un peu quelque part, comme on l'a vu tout à l'heure, pour légitimer toutes ces théories, évidemment, de l'arien supérieur, les théories raciales que l'on connaît. Et fonder alors une organisation SS qui va exister de 1935 à 1945, qui s'appelle, alors je cite évidemment, sans doute très mal prononcé, l'Annenerbe, hein, dirigée par évidemment Heinrich Himmler, le chef de la SS, et qui va recruter effectivement ce jeune archéologue, hein, pour eh bien, lui donner tous les moyens possibles pour justement retrouver la fameuse coupe du Graal, hein, que les nazis aimeraient bien récupérer. Alors là, mes amis, vous pensez bien sûr, hein, au film d'Indiana Jones. Vous vous souvenez que déjà Indiana Jones affrontait les nazis dans évidemment l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue. Eh bien, dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Hein, là aussi, il affronte les nazis qui veulent mettre la main, hein, sur cette coupe. C'est évidemment le maître mot, hein, de cette histoire et de cette course, pourrions-nous dire, contre la montre. Alors, rapidement, eh bien, les fameuses recherches dans la Montségur, dans sa région, ne vont rien donner, en tout cas. Et Himmler cherchera un peu plus loin, à Montserrat notamment, en Catalogne, mais également en vain, pour remettre la main sur cette fameuse coupe. Il faut le savoir que c'est un aspect assez sombre, évidemment, mais pas forcément toujours très connu de l'histoire du Troisième Reich, qu'effectivement il y a eu une véritable course, pourrions-nous dire, à la récupération d'objets ésotériques afin de justifier bien sûr un certain nombre de théories du Troisième Reich. Évidemment, ça n'aboutira pas, hein, puisque eh bien, on ne trouve rien. On ne trouve rien, peut-être pas. Parce que, après, et là c'est vraiment l'épilogue de cette émission, et je m'y suis vraiment intéressé de très près en la préparant pendant les vacances de Noël. Effectivement, Otto Hahn se suicide pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici en 1939. Il est finalement traqué par les SS eux-mêmes et mettra fin à ses jours. Mais Himmler, on l'a vu, veut continuer absolument, ne lâche pas le morceau. Il va tenter en 1940 effectivement des recherches à Montserrat, donc en Catalogne, hein, donc dans l'Espagne franquiste, hein, alliée du Reich. Ça ne donnera rien. Et voilà que, eh bien, arrive encore une fois une nouvelle source. Et oui, comment dire, a posteriori, sur cette histoire du Graal. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, ça nous raconte un peu ce qui s'est passé ensuite. Et il se serait passé effectivement quelque chose. Et là, je suis évidemment avec prudence, hein, bien sûr, car il faut être assez prudent sur ce genre de sources, bien sûr. Mais en 1991, paraît un livre écrit par un Américain, Howard Buchner, B-U-E-C-H-N-E-R. Le livre existe toujours, il s'appelle « La coupe d'émeraude, l'arche d'or ». La quête du lieutenant SS Otto Hahn du Troisième Reich. Dans ce livre, Buchner, pour la première partie de l'ouvrage en tout cas, raconte qu'il a, au moment de la libération des camps de concentration en 1945, donc de celui de Dachau, hein, recueilli le témoignage très très étrange d'un officier SS qui lui aurait raconté tout ce qui s'est passé ensuite. En effet, Himmler, en 1944, va recruter le fameux officier SS à succès de l'époque, puisque c'est lui qui avait contribué à la libération de Mussolini, qui était capturé par les Alliés, hein, au Grand Sasso en 1943, et il va demander donc l'aide de Otto Skorzeny. Skorzeny, qui est évidemment surtout un militaire et pas du tout un archéologue, mais qui va utiliser de grands moyens pour faire des fouilles archéologiques. Des fouilles archéologiques donc poussées à Montségur, car une théorie dit que lors du siège de Montségur, le fameux siège donc de la fameuse croisade contre les Cathares, eh bien, des Cathares auraient réussi à fuir du château par une partie qui n'était pas encerclée, car jugée comme inaccessible. Ils auraient fui avec donc ce que l'on appelle le fameux trésor des Cathares, dont bien sûr les théoriciens se perdent à savoir ce qu'il contenait. Mais voilà que bien sûr, dans l'ouvrage de Howard Büchner, on nous dit qu'il contenait entre autres la coupe du Graal. Et cet ouvrage donc raconte tout cela et nous dit que le 16 mars 1944, c'est-à-dire la date anniversaire hein, de la liquidation du bastion de Montségur hein, par les croisés, hein, la coupe aurait été retrouvée précisément donc par les nazis. Alors là, c'est là que je pense on part dans un roman, parce que peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce qu'a écrit Howard Büchner, mais là je n'ai pas évidemment la possibilité de pouvoir, surtout dans une émission assez courte, il faudrait faire un débat, ce qui serait d'ailleurs fort intéressant avec des personnes beaucoup plus spécialistes que moi là-dedans. Mais Büchner nous dit à la fin de son roman que le Graal, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, aurait été transporté dans un U-boat nazi extrêmement loin, puisqu'il serait caché, alors je dis bien là serait, hein, il s'agit évidemment de théories dont on pensera ou on jugera ce que l'on veut, serait caché dans l'Antarctique, dans un massif montagneux de l'Antarctique qu'on appelle le mont Hoffmann, qui existe, qui se trouve dans la terre de Mary Bird et qui est la zone internationale de l'Antarctique. Vous savez que l'Antarctique est divisée en différentes zones, hein, possédée par le Chili, l'Argentine, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Australie, la France et la Nouvelle-Zélande. Donc en plein cœur de la terre de Mary Bird, il y aurait eu une espèce de sanctuaire dans le mont Hoffmann où on aurait caché effectivement le Graal. Alors, intéressant, il est effectivement clair que Büchner est effectivement un officier américain qui se trouvait réellement à Dachau en 1945, et que dans son travail était de recueillir des témoignages des criminels nazis qui avaient été capturés. Donc il a effectivement, il est peut-être parti à l'origine de son livre du témoignage de ce SS, et puis peut-être a-t-il ensuite brodé autour. Le livre est très difficile à trouver, il coûte extrêmement cher. J'ai cherché sur Amazon pour regarder, et effectivement il est absolument hors de prix, car c'est un livre introuvable. Voilà sur quoi se referme, mes amis, cette histoire, cette petite présentation du Graal. Vous voyez que nous sommes partis d'évocation du merveilleux médiéval, pourrions-nous dire, qui m'est si cher, aux périodes les plus ténébreuses hein, de l'histoire du XXe siècle. Ça reste une quête et qui n'est pas terminée. Et je voulais conclure sur quelque chose, comment dire, d'un peu plus, pourrions-nous dire, un peu moins sombre, qui est que une énième théorie voudrait que le Graal se trouverait en plein cœur de la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, qu'est-ce que c'est ? C'est un morceau de cette immense grande forêt médiévale qui se trouvait en Bretagne. Aujourd'hui, c'est la forêt de Paimpont. C'est à côté de Saint-Cyr, Coëtquidan, pour ceux que ça intéresse. Et dans cette forêt se trouve tout un tas de lieux mythiques évoqués bien sûr dans les chevaliers, la quête des chevaliers de la table ronde. Il y a la tombe de Merlin l'Enchanteur, le lac de Diane, de la sorcière fée Diane, etc. Tout un tas de lieux extraordinaires. Et puis aussi il y a une petite église du 7e siècle, reconstituée entre 42 et 62, qui s'appelle l'église Saint-Onène. Et elle se trouve à Tréhorenteuc. Désolé pour la prononciation. Tréhorenteuc. Et cette église, vous savez bien comment elle s'appelle. Elle s'appelle la chapelle du Graal. Alors elle est magnifiquement décorée avec des objets qui représentent bien sûr la quête du Graal. Et voilà, peut-être aussi est-ce un lieu où il faudrait chercher notre fameux calice. Saint-Onène, pour celles et ceux que ça intéresse, c'était une sainte celtique du 7e siècle, né en 600, mort en 630. Les sources la présentent comme la grande sœur de Saint Judicaël. C'est la sainte de l'humilité populaire, et peut-être bien. Peut-être bien que c'est ainsi qu'on pourrait conclure notre émission de ce soir, que je crois que face à tout cela, il faut rester humble, il faut réfléchir aux différentes sources, à ce petit voyage que je vous ai proposé ce soir, et se dire que le Graal, mon Dieu, si il n'a jamais existé, ça n'est pas impossible non plus. En tout cas, essayer de le trouver, de le comprendre, est une bien belle quête qui nous mène quand même dans les sinuosités du haut Moyen-Âge. La prochaine émission aura lieu le jeudi 25 février 2016. Et là, on va changer radicalement, de zone, puisque nous irons ensemble au fin fond de l'Amérique latine, au cœur des civilisations andines, incas, aztèques, à la recherche effectivement des mythes historiques de l'Eldorado et bien d'autres choses. Et donc, ce sera le 25 février 2016. C'était Olivier Burette, Histoire du soir. Et donc je vous dis à bientôt.